En me donnant une identité, le chocolat blanc m'avait aussi fourni une mémoire. Depuis février 1970, je me souviens de tout. À quoi bon se rappeler ce qui n'est pas lié au plaisir ? Le souvenir est l'un des alliés les plus indispensables de la volupté. Une affirmation aussi énorme, « je me souviens de tout », n'a aucune chance d'être crue par quiconque. Cela n'a pas d'importance. S'agissant d'un énoncé aussi invérifiable, je vois moins que jamais l'intérêt d'être crédible. Certes, je ne me rappelle pas les soucis de mes parents, leurs conversations avec leurs amis, etc. Mais je n'ai rien oublié de ce qui en valait la peine. Le vert du lac où j'ai appris à nager, l'odeur du jardin, le goût de l'alcool de prune testé en cachette et autres découvertes intellectuelles. Avant le chocolat blanc, je ne me souviens de rien. Je dois me fier aux témoignages de mes proches, réinterprétés par mes soins. Après, mes informations sont de première main, la main même qui écrit. Je devins le genre d'enfant dont rêvent les parents, à la fois sage et éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique, obéissante et autonome. Pourtant, ma grand-mère et ses sucreries ne restèrent au Japon qu'un mois. Mais ce fut suffisant. La notion de plaisir m'avait rendue opérationnelle. Mon père et ma mère étaient soulagés. Après avoir eu un légume pendant 2 années, puis une bête enragée pendant 6 mois, ils avaient enfin quelque chose de plus ou moins normal. On commença à m'appeler par un prénom. Il fallut, pour recourir à l'expression consacrée, rattraper le temps perdu. Je ne pensais pas l'avoir perdu. À 2 ans et demi, un humain se doit de marcher et de parler. Je commençais par marcher, conformément à l'usage. Ce n'était pas sorcier. Se mettre debout, se laisser tomber vers l'avant, se retenir avec un pied, puis reproduire le pas de danse avec l'autre pied. Marcher était d'une utilité indéniable. Cela permettait d'avancer en voyant le paysage mieux qu'à 4 pattes. Et qui dit marcher dit courir. Courir était cette trouvaille fabuleuse qui rendait possible toutes les évasions. On pouvait s'emparer d'un objet interdit et s'enfuir en l'emportant sans être vu de personne. Courir assurait l'impunité des actions les plus répréhensibles. C'était le verbe des bandits de grand chemin et des héros en général. Parler posait un problème d'étiquette. Quel mot choisir en premier ? J'aurais bien élu un vocable aussi nécessaire que « marron glacé » ou « pipi », ou alors aussi beau que « pneu » ou « scotch », mais je sentais que cela eût froissé des sensibilités. Les parents sont une espèce susceptible. Il faut leur servir les grands classiques qui leur donnent le sentiment de leur importance. Je ne cherchais pas à me faire remarquer. Je pris donc un air béat et solennel, et pour la première fois, je voisais les sons que j'avais en tête. Maman ! Extase de la mère. Et comme il ne fallait vexer personne, je me hâtais d'ajouter « Papa !» Attendrissement du père. Des parents se jetèrent sur moi et me couvrirent de baisers. Je pensais qu'il n'était pas difficile. Ils eussent été moins ravis et admiratifs si j'avais commencé à parler en disant « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» ou « E égale MC2 ». À croire qu'ils avaient un doute sur leur propre identité. N'étaient-ils donc pas sûrs de s'appeler papa et maman ? Ils semblaient avoir eu tant besoin que je leur confirme. Je me félicitais de mon choix. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Aucun premier mot n'eût pu autant combler mes géniteurs. À présent que j'avais accompli mon devoir de politesse, je pouvais me consacrer à l'art et à la philosophie. La question du troisième mot était autrement excitante, puisque je n'avais à tenir compte que de critères qualitatifs. Cette liberté était si grisante qu'elle m'embarrassait. Je mis un temps fou à prononcer mon troisième mot. Mes parents n'en furent que plus flattés. Elle n'avait besoin que de nous nommer. C'était sa seule urgence. Ils ne savaient pas que, dans ma tête, je parlais depuis longtemps. Mais il est vrai que dire les choses à haute voix est différent. Cela confère aux mots prononcés une valeur exceptionnelle. On sent que le mot est ému, qu'il le vit comme un signe de reconnaissance, qu'on lui paie sa dette ou qu'on le célèbre. Voiser le vocable « banane », c'est rendre hommage aux bananes à travers les siècles. Raison de plus pour réfléchir. Je me lançais dans une phase d'exploration intellectuelle qui dura des semaines. Les photos de l'époque me montrent avec un visage si sérieux que c'en est comique. C'est que mon discours intérieur était existentiel. Chaussures ? Non, ce n'est pas le plus important. On peut marcher sans. Papier ? Oui, mais c'est aussi nécessaire que crayon. Il n'y a pas moyen de choisir entre papier et crayon. Chocolat ? Non, c'est mon secret. Otari ? Otari, c'est sublime. Ça pousse des cris admirables. Mais est-ce vraiment mieux que toupie ? Toupie, c'est trop beau. Seulement l'otari est vivante. Qu'est-ce qui est mieux ? Une toupie qui tourne ou une otari qui vit ? Dans le doute, je m'abstiens. Harmonica ? Ça sonne bien, mais est-ce vraiment indispensable ? Lunettes ? Non, c'est rigolo, mais ça ne sert à rien. Xylophone ? Un jour, ma mère arriva dans le salon avec un animal à long cou dont la queue mince assez longue terminait dans une prise de courant. Elle poussa un bouton et la bête amorça une plainte régulière et ininterrompue. La tête se mit à bouger sur le sol en un mouvement de va-et-vient qui entraînait le bras de maman derrière elle. Parfois, le corps avançait sur ses pattes qui étaient des roulettes. Ce n'était pas la première fois que je voyais un aspirateur, mais je n'avais pas encore réfléchi à sa condition. Je m'approchais de lui à quatre pattes pour être à sa hauteur. Je savais qu'il fallait toujours être à la hauteur de ce qu'on examinait. Je suivis sa tête et posai ma joue sur le tapis pour observer ce qui se passait. Il y avait un miracle. L'appareil avalait les réalités matérielles qu'il rencontrait et les transformait en inexistence. Il remplaçait le quelque chose par le rien. Cette substitution ne pouvait être qu'œuvre divine. J'avais le souvenir vague d'avoir été Dieu, il n'y avait pas si longtemps. J'entendais parfois dans ma tête une grande voix qui me plongeait en d'incalculables ténèbres et qui me disait « Rappelle-toi, c'est moi qui vis en toi, rappelle-toi ». Je ne savais pas trop ce que j'en pensais, mais ma divinité me paraissait des plus probables et des plus agréables. Soudain, je rencontrai un frère, l'aspirateur. Que pouvait-il y avoir de plus divin que cet anéantissement pur et simple ? J'avais beau trouver qu'un dieu n'a rien à prouver, j'aurais voulu être capable d'accomplir un tel prodige, une tâche aussi métaphysique. « Anch'io sono pittore !» s'exclama le corège en découvrant les tableaux de Raphaël. En un enthousiasme semblable, j'étais sur le point de m'écrier « Moi aussi, je suis un aspirateur !» À la dernière seconde, je me souvins qu'il fallait ménager mes effets. J'étais censée posséder deux mots à mon actif, je n'allais pas me décrédibiliser en sortant des phrases. Mais mon troisième mot, je l'avais. Sans plus attendre, j'ouvris la bouche et je scandais les quatre syllabes. Aspirateur. Un instant interdite, ma mère lâcha le cou du tuyau et courut téléphoner à mon père. Elle a dit son troisième mot. C'est quoi ? Aspirateur. Bien, nous en ferons une ménagère accomplie. Il devait être un peu déçu. J'avais fait très fort pour le troisième mot. Je pouvais dès lors me permettre d'être moins existentielle pour le quatrième. Estimant que ma sœur de 2 ans et demi, mon aînée, était une bonne personne, j'ai lu son prénom. Juliette, clamai-je en la regardant dans les yeux. Le langage a des pouvoirs immenses. À peine avais-je prononcé à haute voix ce nom que nous nous prîmes l'une pour l'autre d'une folle passion. Ma sœur me saisit entre ses bras et me serra. Tel le philtre d'amour de Tristan et Iseut, le mot nous avait unis pour toujours. Il était hors de question que je choisisse pour cinquième vocable le prénom de mon frère, de 4 ans mon aîné. Ce mauvais sujet avait passé un après-midi assis sur ma tête à lire un Tintin. Il adorait me persécuter. Pour le punir, je ne le nommerai pas. Ainsi, il n'existerait pas tellement. Vivait avec nous Nishio-san, ma gouvernante japonaise. Elle était la bonté même et me dorlotait pendant des heures. Elle ne parlait aucune autre langue que la sienne. Je comprenais tout ce qu'elle disait. Mon cinquième mot fut donc Nippon, puisque je la nommais. J'avais déjà donné leur nom à 4 personnes. À chaque fois, cela les rendait si heureuses que je ne doutais plus de l'importance de la parole. Elles prouvaient aux individus qu'ils étaient là. J'en conclus qu'ils n'en étaient pas sûrs. Ils avaient besoin de moi pour le savoir. Parler servait-il donc à donner la vie? Ce n'était pas certain. Autour de moi, les gens parlaient du matin au soir sans que cela ait des conséquences aussi miraculeuses. Pour mes parents, par exemple, parler équivalait à formuler ceci. J'ai invité les trucs pour le 26. Qui sont les trucs? Voyons, Daniel, tu ne connais que, nous avons déjà dîné 20 fois en compagnie des trucs. Je ne me rappelle pas qui sont les trucs. Tu verras bien. Je n'avais pas l'impression que les trucs existaient davantage après ce genre de propos. Au contraire. Pour mon frère et ma sœur, parler revenait à cela. Où est ma boîte de Lego? J'en sais rien. Menteuse, c'est toi qui l'as prise. C'est pas vrai? Tu vas me dire où elle est? Et puis ils se tapaient dessus. Parler était un prélude au combat. Quand la douce Nishio-san me parlait, c'était le plus souvent pour me raconter, avec le rire nippon réservé à l'horreur, comment sa sœur avait été écrasée par le train Kobe-Nishinomiya lorsqu'elle était enfant. À chaque occurrence de ce récit, sans faillir, les mots de ma gouvernante tuaient la petite fille. Parler pouvait donc servir aussi à assassiner. L'examen de l'édifiant langage d'autrui m'amena à cette conclusion. Parler était un acte aussi créateur que destructeur. Il valait mieux faire très attention avec cette invention. Par ailleurs, j'avais remarqué qu'il existait également un emploi inoffensif de la parole. Beau temps, n'est-ce pas? Ou ma chère, je vous trouve très en forme. Et t'as des phrases qui ne produisaient aucun effet métaphysique. On pouvait les dire sans aucune crainte. On pouvait même ne pas les dire. Si on les disait, c'était sans doute pour avertir les gens qu'on n'allait pas les tuer. C'était comme le pistolet à eau de mon frère, quand il me tirait dessus en m'annonçant « Pan, tu es morte !» Je mourais pas, j'étais seulement arrosée. On recourait à ce genre de propos pour montrer que son arme était chargée à blanc. À titre de CQFD, le sixième mot fut « mort ».